Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Alors, il est à mes côtés tous les jours, vous le savez, pour votre plus grand plaisir et pour nous éclairer, nous informer sur les sujets de santé qui nous préoccupent, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à l'autisme, ou plutôt au quotidien des parents, des familles confrontées à ce trouble. Ils sont plus de 700 000 en France, avec des difficultés de tout ordre, bien souvent, qu'il faut surmonter dans leur vie de tous les jours. La France a progressé depuis quelques années pour améliorer la prise en charge de ses enfants, mais beaucoup reste à faire. Alors pour en parler, nous recevrons Florent Chapelle. Il est coprésident de la plateforme Autisme Info Service, mais également papa d'un ado de 14 ans atteint par ce trouble. Il nous détaillera son combat depuis plus de 10 ans. Ensuite, dans cette émission, place aussi à la beauté avec la chronique de Benjamin Lévesque. Comme tous les vendredis, aujourd'hui, il va nous faire un focus sur les taches de rousseur. Il y a des moyens, mais oui, c'est étonnant, de s'en faire des factices aujourd'hui. Mais attention quand même aux mauvaises surprises. Et puis, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra aux questions d'une jeune femme qui vient de rompre, mais le problème, c'est que celui qui lui a brisé le cœur, est aussi son voisin de palier.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la question de Marine.
J'ai appelé pour une petite question concernant un traitement à l'ésoméprazole, donc contre les ulcères gastriques notamment, que je prends depuis plusieurs années. Et j'ai entendu dire, enfin j'ai lu dans un article qu'il pouvait favoriser éventuellement les risques du cancer de l'estomac à long terme. Donc j'aurais voulu savoir ce qu'il en était, s'il y avait d'autres traitements éventuellement à prendre à la place de celui-ci, s'il fallait que je joue avec mon médecin pour le diminuer ou l'arrêter. Voilà, j'aurais voulu avoir votre avis. Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup Marine pour votre question. Et donc pour y répondre de façon précise, nous avons interrogé pour vous le professeur François Chaste. Il est pharmacien des hôpitaux de Paris et président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie. On l'écoute.
Certaines études de population montrent que effectivement, on aurait, lorsque le traitement par ce type de médicament est prolongé au-delà d'un trimestre, un risque majoré de l'ordre de 2 à 3 par rapport à une population qui n'aurait jamais pris ce médicament. Ce risque reste néanmoins minime. Il est de l'ordre de 2 patients sur 10 000, ce qui est relativement faible comme risque. On peut effectivement modifier le traitement pour faire en sorte que l'on ait un médicament qui va moins radicalement lutter contre l'acidité gastrique. C'est par exemple les antihistaminiques H2, comme la cimétidine ou la ranitidine.
Ah ben voilà, c'est terminé. Voilà, c'était le professeur François Chaste. C'est terminé un petit peu en l'air. Merci Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est la question pour vous, Jimmy. C'est Géraldine qui nous l'a posée. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai ma fille de 3 ans qui est tombée sur les dents à l'école. Les gencives sont bien gonflées, mais rien n'est cassé. Est-ce que je dois l'emmener chez un dentiste pour contrôler ou pas besoin de s'alarmer puisque ce sont toujours ses dents de lait ? Merci, bon après-midi, au revoir.
Alors Jimmy, c'est une bonne question. Une chute sur les dents, c'est presque toujours une urgence. Et même si les dents n'ont pas cassé, là on est peut-être moins pressé d'aller chez le dentiste, mais il faut toujours contrôler, je crois.
Effectivement, il faut considérer chez l'enfant que tout traumatisme de la bouche ou des dents doit vous faire amener à une consultation chez le dentiste, même si en apparence, aucune dent n'est cassée. Vous pouvez croire que tout va bien, mais il peut y avoir des lésions insoupçonnées et parfois vous avez même le sentiment que les dents bougent. Et si elles bougent, à ce moment-là, il faut absolument faire un contrôle, puisqu'à ce moment-là, le dentiste examinera les dents, mais il fera aussi un panoramique dentaire pour vérifier l'état des dents et des dents qui sont à venir, notamment les dents définitives.
Alors, elle dit bien, Géraldine, dans sa question, est-ce que sur des dents de lait, sa petite fille, elle a 3 ans, est-ce que finalement c'est si grave que ça? Parce qu'on est d'accord, elles vont finir par tomber, ces dents-là, qu'elles soient un peu cassées ou pas cassées, alors, qu'elles bougent ou qu'elles bougent pas.
Il ne faut pas oublier que les dents servent à manger, donc les enfants pourront avoir des troubles de l'alimentation
si
les dents devant
joli,
exactement
vrai.
Ne sont plus là. Elles servent aussi à l'élocution, donc un enfant qui est en cours d'acquisition de la parole, du langage, peut être gêné par l'absence de dents. Et donc si jamais les dents bougent et que le dentiste fait cette panoramique, les radios des dents, et qu'on se rend compte que la racine est touchée et que le nerf peut-être a été touché, à ce moment-là, les dents, elles ne seront plus viables, elles risquent de tomber, ou on va devoir les enlever.
Ouais.
Mais au contraire, parfois, il est possible d'essayer de recoller, resserrer un peu ça avec un fil tenseur pour essayer de gagner un petit peu de temps, car l'enjeu est là, un enfant de 3 ans qui perd ses dents, eh bien, c'est des dents qu'il n'aura pas avant quelques temps. Et dernière chose, le dentiste s'assurera que le bourgeon des dents définitives n'est pas touché. Car si jamais vous avez un enfoncement très important, il peut y avoir une atteinte de ces bourgeons qui sont l'ébauche des nouvelles dents qui peuvent être touchées. Donc ça reste quand même une urgence qu'il ne faut pas négliger.
Si la dent casse, par contre, on peut peut-être rappeler deux, trois conseils. Je crois qu'il faut agir vite. Il faut garder le bout de dent, voire même la dent entière qui a été expulsée. Et on le conserve, attention, précautionneusement. Comment, Jimmy ?
Exactement. En particulier, les dents définitives, mais aussi, vous pouvez le faire chez les dents de lait, parce qu'on ne pourra pas les recoller, de les conserver dans de la salive. Surtout, on ne les nettoie pas, on ne les désinfecte pas.
Donc on
les
fait dans cracher un mouchoir. Le petit enfant.
On fait cracher, parce que c'est le milieu qui contient de bonnes bactéries qui permet de conserver la dent. On ne la met pas dans un mouchoir, dans un petit pot, et on la porte en urgence chez le dentiste. Et surtout, j'insiste, on ne la nettoie pas, ni avec du savon ni avec du désinfectant, vous allez tuer en fait tout le microbiote qui est autour et tous les nerfs qu'on pourra ne plus remettre dessus.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Géraldine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver cet après-midi dans Sans Rendez-vous. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Florent Chappelle. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes donc co-président avec l'acteur Samuel Le Bihan de la plateforme Autisme Info Service. Et puis vous êtes également le papa d'un jeune garçon de 14 ans qui est autiste. Avec vous, aujourd'hui on va s'intéresser à ce trouble, mais vu du côté des familles, Europe 1 est partenaire de la soirée événement qui aura lieu lundi prochain sur France 2 sur le thème « Vivre avec un enfant autiste » avec la diffusion d'une fiction, Ne t'en fais pas, je suis là, suivi d'un débat présenté par Julien Bugier. Alors justement, Florent, ce sera notre sujet du jour avec vous. On va peut-être revenir au début, au dépistage, au diagnostic de l'autisme aujourd'hui en France. Est-ce qu'on est au point, d'un point de vue global, on va dire déjà ?
Alors, est-ce qu'on est au point ? Non. Est-ce que ça progresse ? Oui, ça progresse bien depuis 10 ans. Hein. Là, on est au 3e ou 4e plan autiste. Je ne vais pas embêter tout le monde avec ces choses un peu techniques, mais en fait, le gouvernement a pris la mesure. Déjà, il y a une dizaine d'années de l'ampleur des dégâts. On avait 40 ans de retard en France, on a peut-être encore 20 ans de retard en France. Et ils ont décidé de mettre successivement des moyens de dépistage très précoces et des plateformes en place, pas mal d'outils dont je vais vous parler. Mais ça y est, ça va mieux, ça commence à dépister. À l'époque, ça dépistait à 7 ans, ce qui est très tard. Hein. L'enfant s'est déjà beaucoup développé à 7 ans. Aujourd'hui, on dépiste plutôt vers 3-4 ans.
Justement, si c'est pas trop indiscret, comment ça s'est passé pour votre fils ? Il avait quel âge à l'époque ?
Alors, moi j'ai eu de la chance et de la malchance. Il avait à peine 3 ans, mais il était très très atteint, très très autiste.
Il en a 14 aujourd'hui.
Il va mieux. Il était extrêmement atteint, donc finalement on l'a vu assez vite. Hein. Le plus dur, je dirais que c'est sur les cas les plus légers ou les cas médians, où là, effectivement, les médecines ne sont pas évidentes.
Il n'y a pas un autisme, c'est des autismes.
Alors voilà, il y a des autistes, il y a à peu près autant d'autistes que d'autistes. L'autisme, c'est une somme de choses qu'on observe, mais ce n'est pas quelque chose qu'on attrape. On n'arrive pas à diagnostiquer l'autisme sur la base d'une prise de sang ou d'une radio. On diagnostique l'autisme en l'observant, en regardant. Donc on voit des signes de troubles autistiques, une somme de signes, et on dit l'enfant est dans le spectre de l'autisme.
D'ailleurs, avoir un diagnostic trop tardif, vous disiez, bon, il y a 10 ans, c'était à 7 ans, la moyenne qu'on diagnostiquait l'autisme. Aujourd'hui, c'est plutôt vers 3 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est une perte de chance pour l'enfant et pour ses proches d'être diagnostiqué trop tard ? Parce que bon, on sait bien qu'il n'y a pas de traitement pour le guérir. Donc finalement, être diagnostiqué à 3 ou à 7, ça change quoi concrètement ?
Il n'y a pas de médicaments dans l'autisme, en revanche, il y a des prises en charge adaptées. Et une prise en charge adaptée, ça fait progresser l'enfant. C'est un petit peu comme si je vous disais apprendre une langue étrangère. Si vous empêchez un enfant d'avoir accès au langage, vous l'enfermez dans un placard. C'est un petit peu l'image forte du film de Truffaut, L'enfant sauvage. Vous prenez un enfant, vous le mettez dans la nature, vous le livrez à lui-même au milieu des animaux, il ne parlera pas. Vous le récupérez à 7 ans. Il aboie comme un chien, mais il ne parle pas. Donc il n'a pas eu accès au langage. On ne l'invente pas le langage, on vous l'apporte. C'est de l'éducation pour le langage. Donc en fait, si un enfant, vous lui apprenez 3 langues en même temps, il va apprendre 3 langues. Il habite dans un pays, il a des parents de 2 nationalités, il apprend 3 langues. Et si un enfant autiste, c'est un petit peu ça, vous ne l'aidez pas à apprendre cette langue qui est difficile pour lui, il aura du mal à en apprendre 3. Hein. Mais si vous l'apprenez une langue de manière extrêmement intensive, avec des outils adaptés, ben, l'enfant va arriver à parler, sinon il ne parlera pas.
Vous, quand vous avez appris ce diagnostic, comment a réagi votre entourage et puis aussi les familles que vous connaissez ? Parce que malgré tout, c'est quelque chose qui fait encore très peur. On a peur de l'autisme parce que c'est une pathologie qui est, enfin, une maladie qui est mal connue du grand public.
Ouais, alors il y a plusieurs façons de réagir. Nous, on s'est forcément un peu effondrés, mais je pense qu'il faut bien comprendre que ça ira mieux pour vous et pour l'enfant si vous vous mettez en guerre, en position de combat, et que vous allez vous battre contre cette pathologie et que vous allez aider votre enfant
mais
à s'en sortir.
C'est un cataclysme qui n'est pas juste
mais
dans votre
bien
famille,
sûr.
Hein, ça va au-delà.
Non, mais
hein,
ça, ouais. ça détruit tout. Souvent, vous perdez votre job, votre femme est obligée de s'arrêter de travailler, vos parents paniquent, les gens s'éloignent parce qu'un enfant que vous amenez au restaurant et qui casse tout, bah forcément, vous n'allez plus au restaurant. Quand vous allez chez les copains, ils cassent tout. Donc bon, alors en général, vous vous repliez sur un petit cœur et surtout sur des familles elles-mêmes avec des enfants autistes. C'est pour ça que les associations de parents se tendent la main aux enfants et que souvent, on s'invite les uns chez les autres parce que nos enfants comme ça peuvent être
peuvent tout casser ensemble.
Ouais, voilà.
c'est la fête. Florent, on va en profiter quand même pour dire justement, je ne sais pas, est-ce que l'autisme, on dit que c'est une maladie, c'est un trouble, c'est quoi? Comment on peut le définir aujourd'hui?
Alors, l'autisme, bon, ça fait que 70 ans qu'on sait ce que l'autisme, entre guillemets. Hein. La définition de l'autisme, elle date des années 60 aux États-Unis. Donc, je vous disais dit tout à l'heure, hein, c'est une somme de symptômes qu'on observe. Hein. On voit l'enfant qui a des troubles du langage, des troubles du comportement, des troubles de la sociabilisation, somme de troubles. Il ne va pas arriver à fixer le regard.
Donc, c'est un trouble qui comprend des troubles, mais ce n'est pas une maladie.
C'est une somme de troubles. Hein.
Parce que même moi, j'étais malade tout à l'heure. J'étais malade tout à l'heure quand je parlais de maladie, de pathologie.
J'ai senti, c'est pour ça que je me suis dit.
Moi, je me suis dit, mince, c'est vrai que c'est vraiment un médecin, je ne savais pas comment le faire pour dire les choses sans blesser ou sans vexer ou sans stigmatiser.
Alors, aujourd'hui, en France, la Haute Autorité de Santé, hein, qui est la plus haute instance qui a défini ce que c'était que la pathologie, c'est facile. Le diabète, c'est la même chose dans le monde entier. La France, elle a eu du mal à s'accorder sur le sujet de l'autisme. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Espagne disaient l'autisme est un trouble du développement. Et la France disait c'est un trouble de la relation mère-enfant. Non, non, c'est un trouble du développement. Le cerveau se câble différemment, est hypersensible, hyposensible, il est différent. Ce ne sont pas des enfants malades, ce sont des enfants différents. Mais quand cette différence les handicape, les empêche d'aller à l'école, les empêche de parler, les empêche de travailler, eh ben il faut les rééduquer, les éduquer.
Donc un trouble qui provoque effectivement un handicap. Laurent Chapelle, voilà. Nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, Florent Chapelle. Je rappelle que vous êtes co-président avec l'acteur Samuel Le Bihan de la plateforme Autisme Info Service. Et puis vous êtes également le papa d'un jeune garçon de 14 ans qui est lui-même autiste. Alors à présent, on va essayer de mieux comprendre avec vous le quotidien des familles qui vivent avec un enfant autiste. On va commencer par parler de vous, hein, peut-être quand on vous a annoncé le diagnostic de votre garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été accompagné? On vous a proposé tout de suite une prise en charge? De quel ordre, s'il y en a eu une?
Ah, ça aurait été le rêve, ça. Non, non, ouais. j'ai pas été.
C'était
vraiment...
il y a 11 ans. Hein, donc,
ouais, c'était il y a 11 ans. Alors, déjà, c'était des heures un peu noires. Hein, ça va un peu mieux aujourd'hui. Non, heureusement, je suis tombé sur une association. À l'époque, c'était Autisme Sans Frontières, qui m'a tendu la main. C'était d'ailleurs une journaliste de France Télévisions et un journaliste de France Télévisions qui avait des enfants autistes qui m'ont tendu la main. Vraiment merci à eux, et ce sont les familles qui tendent la main. Parce qu'en fait, le système tel qu'il est organisé en France ne savait pas, et a encore du mal aujourd'hui à prendre en charge. Donc ce sont les familles qui se donnent des tuyaux, qui trouvent des solutions.
Est-ce que les choses du coup se sont franchement améliorées depuis? Qu'est-ce qu'on propose justement à l'annonce du diagnostic pour l'enfant et la famille aussi qui du coup vit avec cette annonce?
Alors je répète, il faut absolument diagnostiquer tôt, hein, parce qu'un enfant n'apprendra, et un enfant n'apprend que quand il apprend tôt. Mmh. C'est pour ça qu'on dit que les 1000 premiers jours...
Donc tôt, on peut diagnostiquer l'autisme, par exemple, je ne sais pas, à 6 mois, un an, parce que
alors,
des bébés, c'est des bébés,
ouais,
j'imagine que c'est difficile. De...
Aux États-Unis, ouais. À partir de 6 mois, ils ont des tests à partir de la vitesse de rotation de l'œil, à partir d'un an. Donc on peut arriver à voir... De toute façon, quand on voit un enfant qui ne babille pas, qui regarde très très fixement, qui a peu de gestes, ou des gestes très très répétitifs... Alors, c'est simple, hein, à un an, quand vous lui tendez une peluche, vous faites gouzi-gouzi... maman, et que l'enfant vous regarde fixement...
Votre fils, il faisait ça, il répondait...
Ah non, mais moi, il regardait ailleurs. Je lui tendais un objet, il le prenait, il le jetait.
Ah oui.
Donc on sentait bien que ce n'était pas adapté, mais on se disait, ça viendra, allez, ça viendra. Donc on essaie de vous rassurer, mais ça ne sert à rien de se rassurer. Hein. On perd du temps, il vaut mieux être un peu inquiet, écouter les parents, et là je parle aux médecins, hein. Il vaut mieux écouter les parents quand on vous dit, c'est marrant, mon fils ne répond pas, mon fils ne réagit pas, il faut agir tôt. Il y a une campagne d'ailleurs lancée par la délégation interministérielle en charge de l'autisme, justement, qui s'appelle Agir tôt, il faut agir tôt. Alors, agir tôt après pour faire court.
Voilà, j'allais vous dire, c'est quoi le quotidien de votre fils aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire un enfant autiste de... Bon, le vôtre, il va à l'école, on va en parler, mais ça veut dire beaucoup de soins, j'en sais rien. Il y a un nombre d'heures, je ne sais pas, de psychologue, de... Ça fait combien?
C'est le grand sujet, la prise en charge adaptée. Alors déjà, il y a 10 ans, il n'y avait pas de prise en charge, ou peu de prise en charge adaptée. Alors,
mais
c'est une prise en charge adaptée, c'est une prise en charge... comme le dit encore une fois la Haute Autorité de Santé, une prise en charge éducative et comportementale, éducative, hein, il faut beaucoup d'éducation, et comportementale, parce que comprendre le comportement de l'enfant, le décrypter, il y a des spécialistes du comportement, ce sont des psychologues comportementalistes, qui comprennent le comportement de l'enfant et qui vous aident à surmonter les crises, à surmonter les blocages, à surmonter... moi, mon enfant ne parlait pas, mais ne parlait pas du tout. Hein, à 5 ans, il n'y a pas un mot. Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez vous lamenter ou agir. Donc moi, on m'a mis en place un système avec des pictos, avec système de renforcement quand l'enfant faisait quelque chose de correct. Et finalement, on est allé chercher une syllabe, deux syllabes, trois syllabes. Et aujourd'hui, il parle.
Ouais. Et ça fait combien d'heures par jour, par semaine ou de soins, de choses liées à ce trouble pour lui?
Alors, là encore, les recommandations disent 25 heures minimum.
Il a combien votre fils?
Plus de 40.
Ah oui. Ouais. Parce que plus c'est mieux.
Ben plus c'est mieux, mais c'est comme l'éducation. Hein. Si un enfant, vous lui apprenez et le basket, et le violon, et l'anglais, et le russe, et l'allemand, ben le môme, il finira à l'ENA. Si vous lui apprenez rien, qu'il passe sa vie à ne rien faire, il avancera peu. C'est toujours ça. Donc c'est un renforcement de l'éducation. Donc d'ailleurs, c'était ça contre lequel on luttait, c'est que on les enlevait de l'école, on leur faisait plutôt rien faire, donc ils progressaient encore moins, alors qu'en fait, il faudrait leur faire deux fois plus d'école. Ouais.
C'est presque indécent de parler de ça, mais ça a un coût en plus, je suppose, un coût direct avec les soins et un coût indirect par le fait que, vous l'avez dit, on doit parfois s'arrêter de travailler.
Un grand scandale, cette histoire de coût. Imaginez quand vous avez un diabète, le sida ou que sais-je, n'importe quelle maladie chronique, maladie du foie, vous êtes parfaitement remboursé. On ne vous dit pas...
vos médicaments, ils sont pris en charge tous les jours.
Mais bien sûr, et puis vous ne vous posez même pas la question. Alors après, parfois, il y a du reste à charge sur certaines pathologies. Je sais que les diabétiques râlent parfois, ou dans Alzheimer, ça râle un peu. Mais ce sont des restes à charge, on compte de quelques centaines d'euros par mois ou par an. Nous, c'est plusieurs milliers d'euros par mois. C'est-à-dire, pour une prise en charge adaptée, c'est de l'ordre de 4 à 5 000 euros avec les charges, et l'État vous donne 600 euros.
Oui.
Donc moi, j'ai vendu ma maison, et j'ai mis mon enfant avec 50 heures de prise en charge, puis 40. Et en 10 ans, je suis passé d'un enfant qui était très lourdement handicapé, hein, sur une échelle... Nous, c'est des échelles, on dit de 60, on se fout. Mais c'était sur 60, il était à 58. C'était un enfant qui s'automutilait plusieurs heures par semaine, qui ne parlait pas, on m'avait dit qu'il finira en institution. Aujourd'hui, bah là, il est à la maison, tout va bien. Enfin, aujourd'hui, il est chez ses grands-parents,
il fait des trottinettes électriques,
il va à l'école. Oui, il va au tennis.
Florent Chapelle, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Florent Chapelle, vous êtes coprésident de la plateforme Autisme Info Service et vous êtes également le père d'un jeune garçon de 14 ans qui est lui-même autiste. Alors justement, on n'en a pas parlé jusque-là, mais combien de familles en France sont touchées par ce trouble, j'allais dire encore cette maladie, mais ce trouble, on l'a compris.
Non, ce trouble, 700 000.
Ah oui.
C'est beaucoup, hein. c'est trois fois la ville de
Bordeaux. On n'imagine pas ça, hein, c'est vrai.
Non, on n'imagine pas. Mais alors d'abord, il y en a qui sont légers, hein, pour être tout à fait honnête. Voilà,
Des troubles potentiellement. Autistiques. Ouais.
Oui, voilà, un petit trouble. Là aussi, c'est une échelle de 1 à 60. Donc, vous pouvez être à 2, vous pouvez avoir un tout petit trouble.
Un petit problème de communication.
Il faut toujours un peu des trois. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, la triade autistique. Si on a juste un trouble de la communication, on n'est pas autiste. Si on a un trouble du langage, on n'est pas autiste. Si on a un trouble du comportement, on n'est pas autiste. Il faut avoir un trouble du comportement, trouble de la sociabilisation et trouble de la communication.
Donc 700 000 familles. Et donc vous êtes très engagé dans cette cause depuis longtemps et vous avez rencontré beaucoup de familles depuis plus de 10 ans. Et ce qui est clair, c'est qu'ils sont submergés de fausses infos. De quel ordre, par exemple?
Il y a deux types. Hein. Les premières fausses infos, c'était qu'est-ce que cette pathologie, qu'est-ce que ça recouvre? Bon, donc pendant longtemps, on s'est trompé. Il y avait le dogme de « c'est un trouble de la relation mère-enfant ». Bon, ça, il a fallu le balayer. Le second gros problème, c'est après, quelle prise en charge, vers qui aller? Donc, pas se tromper d'aiguillage, etc. Alors, ça, on l'a pas assez dit. On est vraiment là pour servir dans Autisme Info Service. Bien sûr qu'on est à l'écoute. Hein, c'est notre premier job chez Autisme Info Service. Vous êtes angoissé, vous venez d'avoir le diagnostic, vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous avez du mal à parler à votre entourage. Bon, voilà. Notre équipe est formée pour écouter. Mais après, bien sûr, donner des bonnes informations, vers quelle centrale, et etc. Mais aussi servir. C'est-à-dire que nous, on accompagne sur le long terme.
Est-ce que vous avez aussi rencontré des familles qui sont effectivement, vous l'avez dit, submergées par de fausses informations? On l'a vu pour l'origine de ce trouble, mais aussi dans les traitements. Est-ce que parfois on propose des traitements, je ne vais pas dire farfelus, mais peut-être même dangereux, parce qu'on veut à tout prix essayer de guérir comme si c'était un mal dont il fallait se débarrasser, ce qui est totalement faux?
Alors, un mal dont il faut se débarrasser, plus compliqué que ça, mais c'est vrai que quand un enfant s'automutile, ne parle pas, on a quand même envie plutôt
d'avoir
de faire baisser l'intensité des symptômes. Hein, on ne va pas se mentir. Même si je sais qu'il y a un courant qui est le courant des neurotypiques qui disent on est très des neurotypiques qui disent voilà, on est très très heureux comme on est, laissez-nous tranquille, laissez-nous dans notre autisme. C'est super quand on est Bill Gates, c'est super quand on est Einstein. Mon fils qui s'automutile, j'ai plutôt
c'est
envie qu'il évolue.
Tout, ouais.
C'est pas drôle du tout. Donc moi vraiment une pensée à toutes ces familles qui ont des enfants dont on aimerait voir la santé vraiment évoluer. Bon, alors après, quelle prise en charge? Bien sûr, pas de médicaments, hein. Il n'y a pas de traitement médicamenteux en France à ce jour. Par contre, vous êtes médecin, donc on soigne, bien sûr, tous les soins somatiques. Hein. On soigne tout ce qu'il y a à côté. Et on sait qu'un autiste peut aussi avoir une otite, peut aussi avoir une rage de dents, vous en parliez tout à l'heure.
On sent comme tous les autres enfants, bien sûr.
Comme tous les enfants, sauf que quand il ne parle pas et qu'il tombe, et qu'il a mal, et qu'il a un abcès, il se met à faire des crises. Vous dites, zut, il fait encore une crise.
Et on peut passer à côté de choses, en
c'est
plus.
C'est juste qu'il a mal aux dents. Ouais. Donc c'est plus difficile, hein. Il perd 15 années de vie.
Ah ouais.
15 années de vie, c'est pas anodin. Hein. Vous parliez tout à l'heure de perte de chance. 15 ans, bon. Donc, techniquement, pas de médicaments. En revanche, une prise en charge psychologique au long cours.
Sur Autisme, la plateforme Autisme Info Service, il y a aussi donc un numéro de téléphone, le 0800 71 40 40. 0800 71 40 40. On appelle et qui c'est qui nous répond, justement?
Alors, c'est gratuit et il y a 4 répondantes. Hein, et je ne vais pas vous parler du profil des répondantes, etc. Mais ce sont des gens très impliqués qui connaissent bien la situation.
Ils ne vont pas me trouver une place en crèche pour mon enfant autiste. Hein, c'est pas ça. Vous n'êtes pas des magiciens non plus.
Alors,
mais
il y a une écoute. Disons qu'ils ne vont pas vous trouver. Disons qu'ils ne vont pas vous créer une place s'il n'y en a pas. Mais s'il y en a une, ils vont vous la trouver.
Ah oui.
Voilà, c'est plutôt ça. Hein. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a quand même des moyens qui sont mis sur le territoire. Le plan autisme, c'est 400 millions d'euros. Donc il y a beaucoup d'argent, il y a des classes. Il y a 270 écoles aujourd'hui dédiées à la prise en charge précoce, ça s'appelle des unités spécifiques autisme. Bah, savoir où elles sont, savoir s'il y a des places, savoir qui appeler à l'éducation
faciliter
nationale.
Faciliter l'aiguillage, quoi, de
bien
proximité.
Sûr,
de...
c'est ouais. Super compliqué, entre la maison du handicap, le médecin, le psychiatre, le dentiste. Trouvez un dentiste. Vous avez un enfant qui a une rage de dents. Trouvez un dentiste qui sait gérer une personne avec un trouble autistique.
Ouais.
Ben nous, on sait exactement sur tout le territoire où trouver un dentiste.
C'est génial. Jimmy ?
Et cette plateforme d'écoute et le site internet, est-ce que ça permet aussi de rompre l'isolement dans lequel les familles sont parfois plongées ? Je suppose que ça ne doit pas être tous les jours évident.
Ben, on est effectivement... on pensait être... assaillis de petits appels comme ça, de gens qui nous disent « bon, c'est quoi l'autisme ? Tiens, il y a peut-être suspicion, des choses assez légères. » Non, en fait, on a des cas plutôt lourds.
Ah ouais.
Quand ça finit chez nous, c'est qu'en général, les personnes ont un peu épuisé toutes les ressources qui étaient à leur disposition. Donc nous, on suit des familles et après les avoir eu au téléphone, en restant dans les règles, toutes les règles
c'est l'État
RGPD,
c'est l'État
etc.
qui a financé cette plateforme.
Alors, l'État cofinance à hauteur de 20%, mais sinon, on a voulu rester une association assez indépendante et c'est financé par la Fondation Orange, la Fondation Michelin, la Fondation Bettencourt et la région Île-de-France. Donc, tous ces gens-là, on est allé les voir au départ, on leur a parlé de notre problème et ils ont mis au pot. Ça fait 3 ans qu'ils nous financent.
Donc on rappelle la plateforme Autisme Info Service, c'est un site internet, donc autismeinfoservice.fr au singulier, et également un numéro de téléphone 0800 71 40 40. Merci beaucoup Florent Chapelle d'avoir été sur notre plateau cet après-midi. Et pour aller encore plus loin, je ne peux que conseiller la soirée événement dont Europe 1 est partenaire, c'est lundi prochain sur France 2, sur le thème Vivre avec un enfant autiste, avec la diffusion donc d'une fiction, Ne t'en fais pas, je suis là, suivi d'un débat présenté par Julien Bugier. Merci encore Florent.
Merci. Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui, vous vouliez nous parler des taches de rousseur.
Eh oui, fini le temps où l'on avait honte d'avoir des taches de rousseur hein, que l'on camouflait à coups de fond de teint. Aujourd'hui, le naturel est à la mode et donc les taches de rousseur sont devenues tendance. Mais voilà, on n'a pas tous la chance d'être une Gwyneth Paltrow ou une Mélanie Gomez, hein, puisque
oh, gentil,
les taches de rousseur sont génétiques. Et ce qui fait que bien beaucoup de femmes optent pour des taches artificielles.
Alors, comment on peut faire pour ça, Benjamin? On les dessine sur le visage?
Alors, plusieurs techniques de maquillage existent pour ça. Il faut savoir que plusieurs marques de cosmétiques ont lancé leur propre crayon pour faire des taches de rousseur. Mais un feutre à sourcils peut faire l'affaire. Ça va durer une soirée, vous pourrez les retirer en vous démaquillant, mais si vous souhaitez que ça dure quelques jours...
Une soirée seulement, Jimmy, hein, c'est dommage, hein, vous auriez aimé un petit peu plus.
Court. Ouais,
c'est ça.
Alors justement, si vous souhaitez que ça dure quelques jours, Jimmy, il existe des patchs à coller sur le visage avec de l'eau tiède, vous savez, la manière des tatouages malabar, ça vous parle?
Ça me parle mieux, merci.
Ça
vous
adapte à mon niveau. Malabar,
les tatouages malabar, le mépris de classe, franchement, ça va se payer.
Et sinon, une autre façon, c'est d'utiliser de l'auto-bronzant, c'est ce que nous explique l'experte beauté Maud Ravier.
Vous prenez de l'auto-bronzant avec un petit coton-tige et vous faites des petites taches de rousseur un petit peu partout, sur les pommettes, sur le nez, on n'oublie pas un petit peu au-dessus, au niveau des tempes. Prenez une vraie femme qui a des taches de rousseur et inspirez-vous de la façon dont elles sont positionnées. Alors quand vous appliquez l'auto-bronzant, effectivement, vous le laissez sécher et puis vous allez voir que ça va durer pendant 2-3 jours. Ce que je vous suggère, c'est d'acheter deux auto-bronzants différents. Vous allez en acheter un pour peau claire et un pour peau foncée et vous allez jouer avec ces deux couleurs-là. Et alors là, vous pouvez être sûr que vous allez être très mignonne avec vos taches de rousseur.
Enfin, une autre astuce vraiment maison pour le coup, c'est d'utiliser du chocolat en poudre qu'on applique avec un coton-tige.
D'accord.
Alors le reste,
Jimmy
le
va
risque...
tester ce soir, il a du chocolat en poudre à la maison dans les placards.
Voilà, mais le risque, c'est quand même de sentir le cacao toute la journée.
M'en voulez pas, le chocolat en poudre, c'est que dans le lait le matin. Mais comment on fait, Benjamin, si on veut que ça dure plus longtemps, plusieurs mois par exemple?
Eh bien, il y a la technique du maquillage semi-permanent, ce tatouage qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est ce qu'a fait Elodie, 36 ans, dans un institut de beauté. On écoute ce que ça donne.
On va pouvoir commencer, je vais vous faire vos taches de rousseur avec un crayon. On va pouvoir faire ensemble plusieurs formes, plusieurs couleurs. On va regarder ensemble où les positionner sur votre visage. Je vais en mettre ici. Vous m'avez dit ici également, hein, c'est bien ça?
Alors, j'aime bien en dessous des yeux, enfin au niveau du nez évidemment.
D'accord.
Mais pas au niveau des joues, enfin évidemment. Hein.
Très bien, donc ici, voilà. Alors,
j'aime bien. Mais j'aimerais en avoir des plus fins.
Alors, donc, je vais commencer par vous désinfecter la zone. Donc, je vais prendre ce stylo pour vous faire les taches de rousseur. Respirez, vous inquiétez pas, ça picote un petit peu.
Je suis entre deux bonnes mains.
Je vais venir avec mes aiguilles choisir les différents pigments. Donc, voici, je suis en train de piquer au niveau du nez, un petit peu en dessous les yeux, sous les yeux. Tout va bien?
Tout va bien. Quelques petits picotements, mais tout va bien.
Donc là, vous voyez, la couleur, comme je vous disais tout à l'heure, est un petit peu plus foncée. Mm-hmm. Il faudra attendre donc 10 jours. Dans 10 jours, la couleur va un petit peu s'estomper. Ça sera la couleur finale.
D'accord.
Là, vous avez... Donc, c'est un petit peu gonflé à certains endroits. C'est
ouais,
normal.
Je vois un peu, mais ça va.
Donc, on va reprendre rendez-vous. On va se voir pour la retouche à faire dans un mois.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et le risque avec cette technique, c'est que bien dans certains cas, ça vieillit mal, comme l'explique le docteur Marie Jourdan, elle est dermatologue à Paris.
Les taches de rousseur tatouées peuvent se mettre à baver, à devenir un peu plus grosses que ce qu'on voulait au départ. Et surtout, déjà, elles ne vont pas s'accentuer au soleil ou s'atténuer l'hiver. Donc on n'aura plus moyen d'avoir le cycle habituel des taches de rousseur. Et puis parfois, l'encre va virer un petit peu. La couleur qu'on avait au départ va un petit peu se modifier. Le brun va devenir un peu plus orangé, un peu plus rose. Ou le noir va devenir un petit peu plus gris, voire bleuté, s'il est inclus un peu trop profondément.
Et dans ces cas-là, la seule solution pour les retirer, c'est d'avoir recours à du laser, du détatouage. Mais d'une, ça fait mal, et de deux, c'est cher.
Merci beaucoup, Benjamin Lévesque.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Merci d'être à nos côtés cet après-midi. Alors, tout de suite, la séquence sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste. Alors Catherine, aujourd'hui, on va répondre à cette question de Tiana. Je vous la lis. J'ai eu une relation de plusieurs mois avec mon voisin de palier. Malheureusement, il m'a quittée il y a un an. J'en souffre toujours. En plus, je le croise tous les jours. Il est parfois accompagné, décidément. Difficile aujourd'hui. Ça fait mal, Catherine, mais j'adore mon appartement, que me conseillez-vous, Catherine? Avoir une relation avec son voisin, ça peut être pratique quand ça marche bien, mais alors quand ça va plus, compliqué. Bah,
c'est toujours la même histoire. C'est comme avec ses ans, son meilleur ami, ou c'est comme avec le frère de sa meilleure amie. Toutes les gens qui sont à proximité, c'est toujours un risque majeur parce que évidemment, si l'histoire ne va pas jusqu'à son terme, eh bien, la vie ne s'arrête pas, les maisons ne se déplacent pas, les amitiés ne s'abandonnent pas, etc., etc. Donc, est-ce que il faut déménager? Non. Est-ce que d'ailleurs, elle aime énormément son appartement? Comment on pourrait dire que oui? Mais on pourrait se dire, c'est curieux d'aimer tant son appartement, ouais, mitoyen de celui que l'on aime, à qui l'on montre au quotidien sa souffrance et qui lui exhibe son bonheur.
Même surtout peut-être encore son voisin, j'ai l'impression. Hein.
C'est ça. Donc en fait, elle n'ose pas prendre son envol, tout simplement, ouais, peut-être. Et évidemment, ça raconte qu'est-ce qui, dans mon histoire, fait que je suis capable d'entretenir des liens de soumission à la toute-puissance de l'autre qui ne m'aime pas. Et moi, je reste comme ça, ventre à terre, devant l'autre. C'est toujours intéressant, c'est bien au-delà de cette relation. Mmh. Comment elle établit les liens avec les autres?
Pourtant, ça fait un an qu'ils se sont séparés. On pourrait se dire qu'elle avait le temps peut-être de se remettre. Est-ce que le fait de le revoir régulièrement, bah, peut-être c'est ça qui ravive la flamme, ou ça va au-delà de ça? Elle n'a juste pas pensé les plaies de cette séparation?
Alors, je ne sais pas, évidemment.
C'est long, un an, quand même, se remettre, non?
Enfin, oui, mais on peut rester très, très obsédé par l'autre.
Une relation de plusieurs mois seulement, en plus. Hein. Donc, c'est ça, mais un an après, ça fait toujours mal.
Parce qu'on a projeté beaucoup de choses, parce que du coup, on
se voyait casser le mur entre les deux appartements, peut-être.
C'est ça. non, c'est vrai que c'est difficile, parce que les relations, ce n'est pas parce qu'on est quitté, qu'on est blessé plus ou moins fortement, que les choses finissent par rentrer dans l'ordre. Ce sont toujours ceux qui ne sont pas quittés, qui disent « Oh, t'inquiète pas, on a perdu 10 de retrouver ». Les choses sont un peu plus complexes parce qu'on a investi beaucoup de choses de l'autre. Simplement, c'est intéressant de se dire comment se fait-il qu'on investit le désamour à ce point. Qu'on ait investi un projet, c'est une chose, et qu'on ait du mal à renoncer à son projet qu'on a complètement idéalisé, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui fait que quand l'autre montre la face noire de lui-même, puisqu'il y a une sorte de sadisme dans sa façon d'exhiber peut-être, ou elle...
D'autres compagnes,
oui,
de nouvelles...
Encore que c'est peut-être elle qui a l'œil dans le judas et qui regarde tout ce qui vient, passe, comment elle est habillée aujourd'hui, etc.
Parce qu'un voisin, on le croise matin et soir, ou quand on va vider les poubelles au mieux. Donc c'est des rencontres éphémères.
Moi, je ne les croise pas si souvent.
Quasiment
ça,
pas, voilà, ouais, exactement. C'est donc c'est quand même étrange comme remarque, parce que finalement... Au pire, on peut avoir des stratégies d'évitement, d'éviter de voir son voisin si on sait que tous les matins...
À quelle heure il rentre, à quelle heure il sort en général, surtout si on est sorti avec pendant quelques mois.
Donc, au-delà de ça, il y a peut-être autre chose derrière ce problème.
Oui, je pense qu'elle...
Elle, c'est d'ailleurs obsessionnel.
Elle est vraiment dans quelque chose de non-renoncement à celui qui trahit, à celui qui en aime d'autres, ce qui peut renvoyer à des histoires personnelles de sa vie d'enfant, avec l'idée que justement, elle est celle qui est mise de côté, qui s'agrippe, à qui doit se détacher, parce qu'une maman est occupée ailleurs, avec un frère, une sœur, un papa aussi.
Elle ne peut pas lui demander de déménager à lui, d'ailleurs. J'étais en train de me demander. Bon, c'est un peu abusé.
C'est un peu violent, quand même.
Bah, parce que lui, je pense que lui, pour lui, bah, il a aimé une femme, il l'a quittée, et puis point. Et puis, certainement, d'ailleurs, il ne l'a peut-être pas fait de façon inélégante. Hein, simplement, il se permet de vivre quand elle se l'interdit, puisqu'elle reste fixée.
Elle doit déménager, Catherine.
On est d'accord.
Non mais attendez, de la même façon que si jamais on avait une relation avec un collègue de travail, on va pas changer de travail, elle n'a pas forcément à déménager dès lors que
je pense qu'il
y a quelqu'un qui
est
un peu dans cette sphère, faut régler le problème peut-être
intérieurement. Bien sûr, c'est un travail intérieur, parce que la réalité,
psychologie, Jimmy.
J'ai beaucoup évolué à vos côtés, Catherine, c'est
grâce à vous. Il change de mois en mois, d'année en année.
J'étais une cause perdue il y a quelque temps, mais là,
non, vous avez toujours été formidable.
Vous avez votre place, Catherine.
Non, il a été formidable.
Pas de risque.
Mais gagne en psychologie.
Voilà, effectivement, la vie, on doit faire avec les événements. On ne quitte pas les lieux où il nous arrive des choses, on ne quitte pas les boulots où on a vécu des déconvenues, on ne quitte pas les lieux de vie parce qu'il y a un voisin, une voisine qu'on a aimé. On continue à vivre et on se met en paix parce qu'on vaut quelque chose. Là, en restant obsessionnel sur une histoire qui ne pourra pas aboutir autrement que lui faire un peu plus de mal, c'est elle qu'elle abîme, en fait, c'est en permanence. C'est elle qui ternit sa propre image, donc elle est encore moins séduisante.
On peut peut-être changer plus facilement d'appartement.
manque de travail quand même, Catherine. Si vraiment, bon, elle
vous voulez vraiment qu'elle déménage.
Oui, en tout cas, Mélanie... c'est ce que je lui aurais conseillé en bonne copine, quoi.
Oui, mais elle dit aimer son appartement, ouais, et peut-être aimer la souffrance dans laquelle elle est. Je l'invite en tout cas à réfléchir, non pas savoir si c'est l'appartement qu'il faut changer ou ne plus regarder dans le Judas, mais peut-être essayer de comprendre ce qui se joue dans ce côté extrêmement obsessionnel lié à lui.
Merci beaucoup Catherine. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. En attendant, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Vous l'avez compris, Mélanie avec Stéphane, en quelques mois, nous sommes devenus inséparables. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, les inséparables de l'histoire.
Il y a les Gauloises inséparables, Astérix et Obélix.
Oui, il y a aussi...
les Siamois, inséparables, les frères Siamois. Vous savez d'où ça vient l'expression les frères Siamois ?
Ben non, mais
ça
vous
vient
nous
de
dire.
Chang et Eng Bunker, les deux premiers Siamois qui étaient reliés
qui
par
du Siam, et donc
un,
on a dit...
un morceau de chair.
Les frères
et
Siamois.
Et vous avez choisi deux inséparables.
Ils sont inséparables aussi. Et regardez l'étiquette de votre chemise, Stéphane. Eh oui,
ah,
Dolce
non.
Gabbana.
Non,
on va parler de ces créateurs italiens.
Merci beaucoup, messieurs. Très beau programme. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi, bien sûr. Je vous le conseille. Restez sur Europe 1.